Once, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu reviennes à la terre dont tu as été formé, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Cette terrible malédiction, mes frères, cette malédiction que notre père Adam entendit au seuil du paradis terrestre et qui venait sanctionner sa révolte contre Dieu, cette malédiction s'applique bien sûr au niveau matériel et nous impose la loi du travail, nécessaire pour gagner notre pain quotidien. Mais elle s'applique encore plus au niveau spirituel dans nos âmes. Car ce n'est pas seulement dans nos jardins et dans nos potagers que poussent les ronces et toutes sortes de mauvaises herbes, mais aussi et d'abord dans notre cœur. Sans la grâce de Dieu, le cœur de l'homme n'est qu'une terre aride et désolée, où peuvent sans doute grandir et se développer des orties, des ronces, des chardons, des tiges d'acacia, soutenues par leur puissant réseau de racines souterraines. On peut même parfois y voir quelques fleurs, mais on ne peut plus en tirer le fruit de vie, le fruit de charité, le fruit de cet amour de Dieu qui peut seul nous nourrir solidement et nous combler de bonheur. La première leçon à retenir de l'évangile d'aujourd'hui, mes bien chers frères, c'est celle-ci. Nous avons besoin d'une semence divine. Nous avons besoin qu'un semeur venu d'en haut vienne nous jeter ces précieuses graines de lumière et de bonheur. Car il n'y a pas de génération spontanée. Nous sommes poussière, nous retournerons en poussière. Et si nous refusons d'être ensemencés par Dieu, nous ne pourrons porter de fruits. C'est une vérité capitale à toutes les époques, car l'orgueil humain a du mal à l'admettre, mais encore plus aujourd'hui, où l'on ne cesse de nous vanter les droits de l'homme et la dignité humaine, et où une secte qu'on pourrait nommer la secte de l'acacia encourage même l'homme à se prendre pour Dieu. Face à ce naturalisme qui veut organiser le monde sans Dieu, nous devons voir l'homme comme il est. Un peu de poussière, capable sans doute de se conserver pendant quelques décennies, 110 ans au plus, mais incapable d'atteindre le bonheur durable sans la semence d'éternité que nous apporte notre Sauveur. Encore faut-il recevoir cette semence comme il faut. D'abord, l'accueillir, puis la laisser grandir, mûrir et fructifier. Et c'est la deuxième, la troisième et la quatrième leçon de cet évangile, sans doute pour nous les plus importantes. Car le péché originel ne nous a pas seulement privés du fruit de vie. Nous ne naissons pas seulement privés de la grâce, nous naissons avec l'héritage d'une nature blessée. Une nature humaine qui n'est pas entièrement détruite, certes, comme le pensait Luther, mais qui est tout de même abîmée et qui a donc du mal à bien recevoir la semence céleste. Nous sommes blessés dans notre intelligence, blessés dans notre volonté, blessés dans notre sensibilité. Dans notre intelligence, c'est ce qu'on appelle la blessure d'ignorance. Et ce mot doit être pris au sens fort, non pas seulement une absence de connaissance, mais une prévention qui nous empêche d'accorder à Dieu l'attention qu'il mérite. Si un jour, mes frères, vous croisez un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que celui-ci ne vous prête aucune attention, vous risquez de vous sentir blessé et de dire avec amertume « Il m'a ignoré ». Il ne vous a pourtant pas injurié, il n'a été ni agressif ni hostile, mais il a fait comme si vous n'existiez pas. Il vous a ignoré et cela suffit à vous affliger. Or, mes frères, telle est souvent notre attitude envers notre Créateur et notre Père du ciel. Nous l'ignorons. Et le pire est que dans bien des cas, nous estimons déjà faire beaucoup en ne l'offensant pas positivement. Combien d'hommes qui ne prient jamais ou presque jamais estiment pourtant avoir droit au paradis pour la seule raison qu'ils n'ont ni tué leur voisin, ni mis le feu à sa maison. Cette blessure d'ignorance qui nous rend si légers, si insouciants, si désinvoltes dès qu'il s'agit de connaître Dieu et les vérités qu'il nous a révélées, est celle qui empêche de prendre au sérieux la parole de Dieu. On l'entend, mais on ne cherche même pas à la comprendre, on s'en détourne. Et cette attitude est puissamment renforcée par l'esprit du monde. Et c'est pourquoi Jésus parle de la semence jetée sur le chemin. Car dans un esprit qui est ouvert à tout, sans clôture ni protection, un esprit où tout le monde peut passer, où le monde entier se promène comme il veut, à quoi sert-il de jeter la semence de la parole de Dieu? Elle est immédiatement foulée aux pieds, écrasée par les passants qui se succèdent, avant d'être subtilisée par l'action des démons. À la veille du carême, demandons-nous, mes frères, si nous sommes dans les conditions requises pour garder la parole de Dieu sans qu'elle soit piétinée par toutes sortes de distractions mondaines qui l'empêcheront de se développer. Pour garder l'esprit chrétien, il faut se couper et se protéger du monde. Et nous pouvons dès maintenant songer aux résolutions à prendre en ce domaine pendant la sainte quarantaine. On rencontre parfois, mes frères, des gens qui sont incapables de se séparer 2 minutes de leur téléphone portable et qui vous disent « Oui, mais si un ami voulait me joindre, je ne voudrais pas manquer son appel. » Sommes-nous si soucieux de ne pas manquer les appels que Dieu pourrait nous faire, les appels qu'il nous fait beaucoup plus souvent que nous croyons, soit à l'extérieur, à l'Église en particulier, mais même à l'intérieur de notre âme, lorsqu'il veut nous souffler telle ou telle inspiration? Bien souvent, nous ne nous en préoccupons aucunement. Nous avons l'esprit pris par toutes sortes d'autres choses et nous sommes incapables d'accorder la moindre attention au bon Dieu qui nous parle. Mais en plus de cette blessure d'ignorance qui affecte notre intelligence et de la blessure de malice qui désoriente notre volonté, il y a aussi 2 blessures dans notre sensibilité, la faiblesse et la concupiscence, qui viennent empêcher elles aussi la grâce de produire ses fruits. Car il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu en se réjouissant un instant. Il faut la laisser s'enraciner en nous, sous peine de la voir se dessécher et mourir au soleil de l'épreuve et de la contradiction. C'est la semence tombée dans la rocaille, nous dit Jésus. Elle a germé, elle a commencé à grandir, mais après la joie du début, sont venues les épreuves, les désillusions, la monotonie du combat quotidien. Dieu a permis ces difficultés pour forcer à s'enraciner, à aller chercher plus profondément l'eau de la grâce. Mais si la plante ne réagit pas ainsi, si elle ne s'enracine pas profondément, elle va au contraire se recroqueviller, se dessécher et mourir. Et c'est bien souvent le cas par faute de persévérance. C'est la blessure de faiblesse qui nous empêche de poursuivre nos efforts, qui nous fait baisser les bras face aux difficultés. Et dès maintenant, mes frères, nous pouvons là encore prévoir ce carême qui va commencer dans une dizaine de jours en profitant de l'expérience des carêmes précédents. Sans doute, nous avions essayé d'y prendre des résolutions. Comment cela s'est-il passé? Les avons-nous tenus longtemps, jusqu'au bout du carême? Si c'est le cas, tant mieux, faisons de même. Mais si nous nous rendons compte que souvent nous prenons une résolution et qu'à la première chute, dès que nous nous apercevons que nous y avons manqué, nous nous décourageons et nous la laissons tomber pour le reste de la période, il est important d'y réfléchir et de chercher des moyens pour développer en nous la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours avec persévérance. Et donc, prévoyons non seulement telle ou telle résolution précise, mais aussi ce que nous ferons s'il nous arrivait d'y manquer et la façon dont nous nous relèverons avec persévérance pour maintenir jusqu'à la fin du carême ces précieuses résolutions. Il ne suffit pas que la plante germe et qu'elle commence à croître, qu'elle ait des racines, il faut aussi éviter, nous dit notre Sauveur, qu'elle soit étouffée par les épines. Et Jésus lui-même nous précise ce que sont ces épines. Ce sont toutes les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est tout simplement la concupiscence. Une autre blessure dont nous héritons du péché d'Adam, cette soif désordonnée du plaisir. Il est évident que quand on possède un jardin et qu'on s'en occupe, on n'attend pas que les ronces aient absolument tout envahi et tout suffoqué pour s'en préoccuper. Il faut très régulièrement s'y attaquer dès qu'elles commencent à revenir. Et il faut au moins une fois par an aller s'employer à les arracher. Et si on ne réussit pas à les arracher totalement, au moins à les couper pour éviter qu'elles nuisent à ce qui d'autre a été planté. Il en va de même dans notre vie et c'est une des raisons pour lesquelles il est important de faire le carême. Si nous ne voulons pas que la soif désordonnée des plaisirs nous détourne de notre Seigneur et empêche sa parole de porter du fruit dans notre âme, il est important qu'il y ait des moments où nous travaillons plus particulièrement à nous mortifier. Cette mortification est indispensable. Sans ça, nous perdons l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous soucions plus de ce qu'il a dit. Et voilà pourquoi l'Église, la Sainte Église, nous fait entendre cet évangile 10 jours avant le début du carême. Là encore, profitons-en pour réfléchir à un bon carême, et généralement un carême qui a commencé bien dès le début, dès le mercredi des cendres. On n'a pas attendu 2 semaines à se demander quelle résolution je vais prendre pour ce carême. Donc dès maintenant, réfléchissons-y, voyons, que vais-je faire pour bien garder la parole de Dieu dans mon cœur et lui permettre de se développer, de résister aux épreuves et aux tentations, de ne pas être étouffé par les épines et d'en arriver jusqu'à porter du fruit. Et rappelons-nous, ce fruit nous donnera beaucoup de joie. pas seulement dans l'éternité, évidemment, dans l'éternité, cette joie sera éternelle et sans limite, mais dès ici-bas, dès que nous laissons en nous croître la parole de Dieu et que nous la laissons atteindre son fruit, ce fruit est accompagné d'une grande douceur et d'une grande joie. Nous l'avons tous certainement expérimenté, de même que une bonne communion va, pas forcément à chaque fois, mais au moins de temps en temps, régulièrement, nous consoler et nous apaiser. Donc, essayons de viser ces fruits divins que notre Seigneur veut nous voir porter. Essayons de les porter au centuple, comme il a promis que cela pourrait nous arriver si nous sommes bien dociles. Et demandons dès maintenant, pour le carême, et puis pour dès aujourd'hui, cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.